Temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce microphone. Dans moins de 5 minutes, Sportrama, ce sera avec Timothée Donangmaï. Mais tout d'abord, un point de l'actualité. Thomas Lubanga, ancien chef rebelle congolais, a été reconnu coupable par la Chambre d'appel à la Cour pénale internationale. La justice internationale lui reproche d'avoir enrôlé des enfants soldats en République démocratique du Congo en 2002 et 2003. Sa peine de 14 ans de prison a donc été confirmée. Au Nigeria, Maiduguri et Damaturu, deux capitales du nord-est du pays, ont été la cible d'attaques attribué à Boko Haram. Le double attentat suicide dans le Monday Market à Maiduguri a été perpétré par deux femmes kamikazes et selon l'AFP, il y a eu 10 morts. Ce marché avait déjà été la cible d'un double attentat qui avait fait au moins 45 morts la semaine dernière. Le monde entier a célébré aujourd'hui la journée mondiale du sida. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a salué les progrès accomplis, mais il a mis en garde contre la fragilité des acquis dans la lutte contre le fléau. Le chef de l'ONU a exhorté les leaders du monde entier à faire ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif d'éradiquer le sida d'ici 2030. Le président américain Barack Obama a fait savoir que les États-Unis restent déterminés à faire front contre la maladie. La stratégie de lutte des États-Unis contre la pandémie touche environ 7 millions de personnes à travers le monde, des personnes qui vivent un traitement, qui ont un traitement antirétroviral. 35 millions de personnes vivent avec le VIH, dont 19 millions sont dans l'ignorance de leur statut sérologique. Lutte contre Ebola, l'Organisation mondiale de la santé a indiqué aujourd'hui que le Libéria et la Guinée ont réussi à isoler 70% des personnes infectées par le virus et à enterrer en toute sécurité 70% des victimes avant le 1er décembre. Jacques Aristide.
Des progrès certes, mais la guerre contre Ebola est très loin d'être gagnée d'après les différents acteurs engagés dans la lutte contre l'épidémie. Pour l'ONG Médecins sans frontières, le virus fait encore rage en Sierra Leone, qui d'après les humanitaires a longtemps refusé de voir la réalité de la maladie. À Genève, ce lundi, le docteur Bruce Aylward de l'OMS faisait le point sur le plan ambitieux mis en avant il y a 2 mois par l'agence onusienne pour freiner l'épidémie. Elle avait fixé comme objectif au 1er décembre de prendre en charge et d'isoler 70% des malades et de sécuriser 80% des enterrements, les dépouilles étant très contagieuses. Selon le docteur Aylward, ce programme a démontré qu'il était possible de combler l'écart énorme entre l'ampleur de la maladie et la capacité de réponse. Le médecin a indiqué que ces mêmes objectifs ont probablement été atteints dans l'ouest de la Sierra Leone et qu'il s'attendait à ce que la situation s'améliore à travers le pays au cours des prochaines semaines. Le docteur Aylward a toutefois prévenu que parvenir à atteindre ces objectifs n'entraîne pas automatiquement la disparition des nouvelles infections et des pratiques funéraires dangereuses. Malgré les lueurs d'espoir, Ebola a tué près de 7000 personnes à ce jour, selon le dernier bilan de l'OMS, en immense majorité au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Et le programme alimentaire mondial, faute de moyens financiers, a suspendu son aide à travers des bons d'achat à 1,7 million de réfugiés syriens. Les précisions avec Michel Joseph.
L'agence onusienne a annoncé avoir été contrainte par manque de moyens de suspendre son aide aux réfugiés syriens en Jordanie, au Liban, en Turquie, en Irak et en Égypte. Ceux-ci pouvaient, grâce à des bons fournis par le PAM, acheter de la nourriture sur place. Malgré plusieurs appels pour obtenir des fonds, les donateurs n'ont pas mis la main à la poche. Pour Etherin Cousin, directrice du PAM, cette suspension de l'aide va mettre en péril la santé et la sécurité des réfugiés et pourrait même provoquer des tensions dans les pays d'accueil. Depuis le début de la crise syrienne en 2011, le PAM a assuré une aide alimentaire à des millions de personnes déplacées et à 1,7 million de réfugiés syriens dans les pays limitrophes.
Et puis, au moins 16 gardes frontières irakiens sont morts ce lundi dans une attaque de l'État islamique dans l'extrême ouest de la province d'Anbar, non loin de la Syrie. L'attaque a également fait 4 blessés. Malgré tout, les autorités irakiennes affirment contrôler Al-Walid, le théâtre de l'assaut des militants. Par ailleurs, la mission d'assistance de l'ONU en Irak rapporte la mort de plus de 1200 Irakiens, dont 300 combattants pro-gouvernementaux durant le mois de novembre. Vous écoutez VO Afrique, le sport, c'est maintenant.
Bonsoir à tous, Timothée Donangmaï avec vous dans cette nouvelle édition de Sporama, le magazine des sports de VOA Afrique. Et comme tous les lundis soirs, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de Sporama. De même que vos appels en direct au 001, le code des États-Unis, 202-619-3140, 001 pour les États-Unis, 202 pour Washington, District de Columbia, 619-3140. Avec nous ce soir, Jules Valentin Gouet, en ligne de Libreville, au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir à tous.
Nous avons aussi Élisée Ongpatine à Boïkon, au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Timothée, bienvenue au Bénin.
Également en ligne ce soir, notre confrère Stéphane C. d'Abidjan. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Timothée, à quoi va tous à Abidjan?
Alors, les finalistes du Ballon d'Or 2014 et d'autres prix de la FIFA sont connus. Pour ce qui est du Ballon d'Or, hommes, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi étaient les favoris de tous les pronostiqueurs. On voulait savoir qui s'ajouterait à ce duo. Eh bien, c'est le gardien de but allemand Manuel Neuer qui s'ajoute donc à cette shortlist pour le Ballon d'Or homme. Alors, Jules, les chances de chacun.
Oui, il faut dire que d'abord le choix de ces trois joueurs est justifié et que Cristiano Ronaldo, qui même s'il a pas tellement brillé pendant la Coupe du Monde, a surtout vraiment été éclatant avec son équipe, son club, qui est le Real Madrid, qui est le champion européen en titre. Et il y a Messi qui a fait une année blanche avec Barcelone, mais seulement qui a par contre réalisé une bonne Coupe du Monde, les deux joueurs étant en pole position au lendemain de la Coupe du Monde, ils ont fini très bien l'année. Et le gardien allemand, lui, sa place est là parce qu'il représente l'équipe championne du monde à la dernière Coupe du Monde au Brésil et qui est une équipe très excellente, collective, mais dont le gardien de but a été déterminant pour le résultat final. Il faut dire également que Neuer a impressionné les spécialistes en apportant une touche nouvelle au rôle du gardien de but. Un gardien de but libéraux qui sort très loin de son but et pratiquement supplée ses défenseurs du pied, de la tête, et très à l'aise, et ce qui fait de lui le deuxième rénovateur à ce poste après le russe Yachin dans les années 60. Bon, donc, la place de ces trois joueurs est justifiée, mais je crois que c'est Cristiano Ronaldo qui, en quelque sorte, tient le bon bout pour le moment.
Élisée Ongpatine?
Timothée, voilà, Jules a déjà dit beaucoup de choses, mais ce qu'il faut retenir, il faut le dire, on risquerait de vivre encore le même scénario de 2010 où Casillas a offert pratiquement la Coupe du Monde à l'Espagne. Il a joué un rôle très important. Lui seul, il a gagné des matchs à 70%. On se rappelle en finale où il a été décisif sur ce face-à-face contre Robben. Et donc, il a permis à l'Espagne de gagner la Coupe du Monde de 2010. Mais avec beaucoup de surprises, on a vu Lionel Messi décorer. Maintenant, en 2014, Manuel Neuer, Jules l'a dit, il a pratiquement offert cette Coupe du Monde à l'Allemagne avec un très bon gardien de but qui a rayé beaucoup de vérités offensives de la part des adversaires. Mais cette année 2014, on voit que quelqu'un est en train de marcher très fort. Il s'agit de Cristiano Ronaldo, sur une année civile. Il a fait fort affaire avec son équipe, le Real Madrid, qui a remporté une seule Supercoupe et la Ligue des Champions. Et c'est vrai, remporté la Coupe d'Espagne. Mais Neuer a fait mieux puisque lui, il a remporté la Coupe du Monde et aussi être deux fois sacré du côté de l'Allemagne. Le championnat et la Coupe d'Allemagne, c'est vrai, Lionel Messi qui continue de battre des records, mais qui ne s'est pas fait remarquer durant cette année civile 2014. C'est vrai qu'il a fait une Coupe du Monde à amener l'Argentine en finale, ce qui ne s'est plus produit depuis 1990. Donc, c'est dire que les trois joueurs ont connu des fortunes diverses, mais pour le moment, il faut dire que si la FIFA et les journalistes, ceux-là qui désignent le meilleur, s'il veut faire une très bonne chose, et il est temps de voir encore un nouveau gardien depuis Yachine en 1960, donc Manuel Neuer, en remportant la Coupe du Monde et en offrant pratiquement le doublé à son club, le Bayern de Munich, et dans le championnat allemand ainsi que la Coupe d'Allemagne. Et pour moi, Neuer pas un peu légèrement en avance sur Cristiano Ronaldo, qui continue quand même de marquer beaucoup de buts avec son club, le Real Madrid.
Avant de passer à Stéphane C, nous allons prendre un auditeur, Archiduc de N'Djamena. Bonsoir.
Bonsoir à tout le monde, bonsoir à la voix de l'Amérique.
Voilà, allez-y.
Alors, moi, par rapport aux sélections pour ce ballon d'or, je place en première position Lionel Messi, qui d'abord avait gagné par son équipe nationale et est en train de faire race avec le Barça. Ce qu'on devait voir plus, c'est une performance d'abord individuelle et avec l'équipe nationale. Mais Cristiano Ronaldo, quand on voit bien par rapport à la Coupe du Monde, il n'a pas assez fait. Quand on prend Real de Madrid n'est rien d'autre que le club des meilleurs. C'est-à-dire, c'est un club où on cherche à recruter que les meilleurs. Donc moi, je suis du côté de Messi et c'est là que Messi va remporter ce ballon d'or.
Merci, Archiduc. Stéphane C.
Oui, je vais rebondir sur la chute de mes deux confrères qui disent qu'il serait bon peut-être de voir un gardien revenir au plus haut sommet après l'ère Yachine en 1963. C'est vrai que Manuel Neuer est la bonne surprise de ce trio. Un trio qui ressemble au trio qu'on a connu l'année dernière, un joueur du Bayern qui remplace un autre joueur du Bayern. Franck Ribéry était là l'année dernière entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Cette année, c'est un autre joueur du Bayern, c'est Manuel Neuer, qui a fait une superbe Coupe du Monde avec l'équipe de l'Allemagne, qui l'a gagné, qui a réalisé un doublé avec l'équipe de l'Allemagne au plan national, eh bien c'est peut-être le meilleur gardien de ces dernières années qui mérite largement d'être parmi ces deux messieurs énormes. Lionel Messi qui a déjà gagné 4 fois, 2010, 2011, 2012 et 2013. Quelqu'un pourrait dire c'est bien bon pour Lionel Messi, il pourrait s'arrêter là. Pareil pour Cristiano Ronaldo, 2008 et 2014. On est un peu habitué à tourner en rond ces deux garçons qui se lancent la balle et qui se font la passe sur cette récompense concernant le ballon d'or de la FIFA. Il serait bon que pour une fois, un gardien revienne parce que c'est pas tous les jours qu'on récompense les défenseurs, la part belle est trop faite aux joueurs qui jouent devant, notamment ces deux garçons, Messi et Ronaldo, qui sont dans un duel qu'ils commencent depuis le championnat en Espagne, avec les records qu'ils ont en Espagne et en Ligue des Champions. Mais je pense pour ma part qu'il serait bon pour cette année qu'il y ait un succès à l'aide de Chine qui l'a gagné en 63. Il serait bon que Manuel Neuer gagne cette récompense. Il le mérite bien. En plus, l'Allemagne a été champion du monde en cette année. L'Allemagne a dominé le football mondial. Et bien, il serait bon que Manuel Neuer coiffe au poteau ces deux garçons qui, je pense, sont les deux grands favoris de cette récompense.
Jules Valentin Goué, notre auditeur Flori Mbunga de RDC, écrit « Il faut que la FIFA reste au milieu du village, il ne faut pas avoir de parti pris. » Est-ce qu'il y a un parti pris contre le continent ici, contre l'Afrique?
Oui, mais il faut dire que l'Afrique n'est vraiment pas bien, disons, considérée par ceux qui élisent le ballon d'or par le jury depuis très longtemps. C'est qu'il n'y a que George Weah qui a eu l'honneur d'avoir ce trophée. Mais l'Afrique a aligné pendant près de 10 ans les deux meilleurs avant-centres du monde, et Samuel Eto'o et Didier Drogba. Mais aucun d'eux vraiment n'a été même dans le trio de tête du ballon d'or, ce qui est vraiment très étonnant et très désolant. Bon, donc, nous avons maintenant des leaders comme Yaya Touré, nous avons Brahimi qui a brillé cette année. On aurait bien aimé qu'un de ces joueurs soit à cet endroit, mais franchement, au niveau des résultats pour cette année, et je crois que le choix a été bien fait.
La compétition est tout aussi âpre pour le Ballon d'Or féminin. L'Allemande Nadine Kessler figure sur la shortlist. Meilleure joueuse européenne 2013-2014, elle a assuré avec brio la qualification des Allemandes au Mondial féminin 2015 au Canada. Kessler devra cependant compter avec la Brésilienne Marta et l'Américaine Abby Wambach. Élisée Oumpatine, votre analyse.
Là maintenant, on retrouve pratiquement les meilleurs de cette catégorie-là quand on parle du football féminin. C'est vrai, Marta a fait ses preuves il y a longtemps et elle a commencé par vieillir. Et l'Américaine Abby aussi, hein, il faut reconnaître maintenant. L'Allemande fait office de favorite, il faut le souligner puisque elle a permis donc à la sélection du football féminin de rappeler de beaucoup de trophées. C'est vrai que le Japon leur a mis la vedette hein, lors du dernier mondial où les Japonaises ont remporté la Coupe du Monde. Sinon, pratiquement, hein, logiquement, on a vu les trois meilleures footballeuses de ces 5 dernières années. En tout cas, on attend de voir qui sera l'heureuse élue.
La Voix de l'Amérique, nous allons vous retrouver après cette pause. Sporama sur les ondes de VOA Afrique avec Timothée Donangmaï, Jules-Valentin Gouet, Élisée Oumpatine et Stéphane C. Et nous allons passer maintenant aux compétitions africaines avec la victoire du CO Sport samedi contre Al Ahly du Caire. 2-1 en finale aller de la Coupe de la Confédération. Le club ivoirien a ouvert le score sur pénalty par Kwame Christian à la 24e minute. À la 57e, Hassan Ibrahim égalise pour les Égyptiens avant de voir Assalé Roger Claver donner la victoire au COE à 9 minutes de la fin. Le point de vue de Rigo Gervais, l'entraîneur du COE Sport.
Je pense qu'il ne fallait pas perdre. On a vite fait de prendre l'avantage. Ensuite, on a cherché en deuxième mi-temps le but du break, mais on a eu le pied carré. On a manqué de finition pour ce but du break-là. L'adversaire a profité de notre moment de flottement pour revenir dans le match. On a eu ce mental-là pour aller chercher le résultat. Parce qu'à Abidjan, ici, il ne fallait pas se permettre de faire un match nul ou de perdre. On a tout fait pour pouvoir prendre une certaine avance et puis emporter ce match.
Avec un score de 2-1 à domicile, le COE Sport s'est donné une marge de manœuvre qui laisse tout de même entrevoir un match retour difficile en terre égyptienne. De nouveau, Rigo Gervais, entraîneur de COE Sport.
Alors, nous, on pense qu'on est assez armés. Je pense que vous le découvrez. Nous, on est habitués à cette ambiance-là. La chenille dans le piment arrive à vivre. Je pense que voilà, on est habitué, on a vu ça au Nigeria, voilà, on a vu ça dernièrement avec Dolizy. Et je pense qu'on est habitué, on a cette peau dure là pour aller chercher ce résultat-là, qui est vraiment important pour toute la Côte d'Ivoire.
Rigo Gervais, entraîneur de COE Sport. Alors Stéphane C, Rigo Gervais, ambitieux, mais tout de même prudent, concernant ce match retour au Caire.
Oui, il est clair que le match retour va être assez difficile hein, en terre égyptienne parce que cette équipe du Al Ahly est solide. Hein. Il y a une grosse différence entre ces deux formations. 70 ans de différence, 37 fois champion pour le Al Ahly, 3 petits titres pour le CO Sport de Centre d'eau, 2 participations en Ligue des Champions pour 8 titres pour l'équipe du Al Ahly. Bien, le match retour va être difficile. On peut avoir d'énormes regrets hein, sur ce match aller parce que sur les 10 premières minutes de la seconde période, le CO aurait pu tuer le match 3-0, 4-0 que personne n'aurait cru au scandale. 46e minute, 52e minute, 53e minute, les Stéoquais ont vendangé des occasions de but. Et puis, quand il y a eu l'égalisation à 57, on a eu tous peur parce que déjà les deux équipes se sont croisées en phase de poule de la Coupe de la Confédération 1-1 au stade Robert Champoux pour s'incliner au match retour 1-0. Et bien, c'est des résultats qui font peur. Mais comme l'a dit Rigo Gervais, en l'état actuel de la compétition, il n'y a plus de favoris. La finale va se jouer sur ces 90 minutes. Les CO a un but d'avance. Les CO s'est voyagé. L'équipe l'a prouvé lors du face au Pepe Mazembe, face au Canal C, à l'air sur le pas, le disait tout à l'heure Rigo Gervais, la croix du CO. Ça va être un match difficile au match de tout, mais enfin, le CO a toutes ses cartes à jouer. C'est le CO, région CO, de défendre carrément son but inscrit ici lors du match aller.
Élisée Oumpatine, comment voyez-vous ce match retour CO Sport Al Ahly au Caire?
Ce sera un match très difficile, hein, Timothée. Là, il faut le souligner, puisque à la Ligue, le National du Caire aura la chance désormais d'évoluer dans son stade fétiche, hein, ce stade qui accueille près de 100 000 spectateurs. Là, ça va peut-être jouer sur maintenant. Nous avons vu ce match aller où, avant d'égaliser, il y a eu forte domination des Égyptiens. Il ne faut pas l'oublier, c'est vrai que le Sport de San Pedro s'est procuré d'énormes occasions et aurait pu tuer le match, mais aussi c'est sans compter sur la qualité de jeu produit par les Égyptiens qui ont dominé largement après la 55e minute. Ils ont dominé même en concédant le deuxième but. Les Égyptiens avaient la possession de la balle, donc ça pourrait aussi jouer au match retour. Méfiance, hein, surtout puisque dans cette compétition-là, peut-être hein, le match, le résultat du match aller est peut-être suffisant. Nous avons vu en Ligue des Champions où les Algériens sont allés chercher le nul déjà au match aller. Donc ça peut jouer largement. Mais attention à cette équipe, c'est une équipe expérimentée qui a un entraîneur, mais c'est un entraîneur qui prône pour le football technique, c'est un Espagnol, donc ça pourra aussi jouer puisqu'il a pris l'équipe du Caire il n'y a pas longtemps, il aura maintenant le temps de faire jouer son schéma tactique. Mais pour le moment, il faut dire que les Ivoiriens partent avec la faveur des pronostics déjà vainqueur au match aller. Ça pourra aussi jouer puisqu'ils ont eu déjà la chance de s'affronter en match de poule où Rigo Gervais a souligné, ils ont beaucoup appris de cette équipe égyptienne, mais cette finale retour reste tout de même ouverte.
Notre auditeur Chokoro Bino Keta du Mali écrit sur Facebook, le CV Sport a fait un bon match à l'aller et le retour m'inquiète au niveau arbitral puisque le retour c'est au Maghreb. Je Valentin Goué, est-ce qu'il y a des raisons de se préoccuper de ce côté?
Non, je crois qu'à ce niveau de la compétition, on a depuis quelques années rarement vu de scandales, disons que lors des dernières confrontations de la Ligue des Champions ou bien de la Coupe de la CAF. Et donc, il ne faudrait pas réellement s'inquiéter. Mais en fait, comme l'ont dit la plupart des intervenants, le score de 2-1 en faveur de CEOE au match aller est un score qui lui donne l'avantage de savoir au moins quelles dispositions tactiques aborder en début de rencontre, de regarder, de voir venir un peu l'équipe d'Al Ahly et de pouvoir la contrer un peu plus aisément. Donc c'est à Al Ahly de faire la preuve que c'est une équipe expérimentée qui peut être prudente et patiente avant réellement de placer les Sokar, parce qu'avec un score d'un but ou de deux buts à zéro, Al Ahly peut renverser la vapeur. Mais je le répète, au niveau arbitral, je crois qu'il n'y aura pas grand-chose à craindre.
Sporama sur les ondes de VOA Afrique. Rendez-vous dans une seconde après cette pause. Vous écoutez Sporama sur les ondes de VOA Afrique. Timothée Donangmaï ici à Washington avec Jules Valentin Goué à Libreville, Élisée Ongpatine à Boïcon au Bénin, Stéphane C à Abidjan. Nous allons parler maintenant de quelques compétitions nationales en commençant par le Cameroun où le championnat national de football s'est conclu hier par le sacre de Coton Sport. En 38e et dernière journée, le club basé à Garoua, dans le nord du pays, a laminé Cosmos de Bafia 3-0 pour terminer la saison avec 75 points devant Cosmos 66 points et Unisport 65 points. Une bonne saison pour Coton Sport qui a également remporté la Coupe du Cameroun en battant Panthère Dundé 2-0. Jules Valentin Goué, Coton Sport qui émerge à nouveau dans le football camerounais.
Oui, c'est pratiquement un monologue au Cameroun où Coton Sport a fait la différence avec les autres clubs. Il a tiré un peu le football camerounais des clubs qui étaient, ma foi, qui avaient son centre pratiquement à Yaoundé et à Douala. Et il a tiré vers la partie nord du pays, mais il faut également dire que ce n'est pas une surprise. Coton Sport de Garoua est sûrement l'équipe la mieux organisée au Cameroun et la mieux lotie. Et la société cotonnière de la partie président du Cameroun est son principal sponsor, mais il ne faut pas oublier non plus que c'est la ville de Garoua et la ville natale du président Issa Hayatou, le président de la CAF, et qui, en quelque sorte, même s'il ne se manifeste pas ouvertement, est un grand atout pour le club, et ce club qui a fait de la zone du Sahel central son lieu de recrutement favori, notamment au Niger, et ce qui prouve d'ailleurs pourquoi le club de l'équipe nationale du Niger a acquis une certaine expérience et a connu une certaine ascension. Je crois que il faut juste dire bravo à Coton Sport qui continue à être la seule équipe pratiquement capable de d'éclairer la lanterne camerounaise ces dernières années au niveau africain.
Coton Sport se qualifie donc pour la Ligue des Champions. Élisée Oumpatine, un mot sur ce club?
Oui, c'est un très bon club. Jules a tout dit, non seulement un club de Garoua où il y a le président de la CAF, mais aussi, n'oublions pas, l'ancien président de la Fédération camerounaise de football, Mohamed Dia, qui met énormément de moyens, on se rappelle. Donc, c'est-à-dire que c'est un club maintenant qui doit essayer de franchir les étapes, puisque il a eu la chance de jouer une fois au moins la finale de la Ligue des Champions. Le plus important maintenant, c'est d'aller chercher cette coupe, puisque là, maintenant, sur le continent africain, outre les clubs maghrébins, il y a aussi les clubs du Suisse Sahel qui commence pas à s'afficher, non seulement Coton Sport du Gara, mais il y a aussi l'AS des clubs le tout puissant Mazembe ou encore le Service Sport de San Pedro, même si c'est sa première finale. N'oublions pas le Léopard de Dolisie aussi. Maintenant, le Coton Sport du Garoua doit maintenant chercher à se renforcer, surtout à se renforcer et aller très loin, éliminer déjà en demi-finale de la Coupe de la CAF, ce n'est rien, mais c'est de faire une bonne prestation pour la saison prochaine, surtout en Ligue des Champions.
Sur une note personnelle, mes félicitations à Coton Sport qui joue à côté de mon ancien quartier de Garoua, Rumdiadja. Un championnat s'achève, notre démarche, et précisément en Côte d'Ivoire, Stéphane C.
Oui, le championnat ivoirien a commencé après moult tractations et beaucoup de, je veux dire, de péripéties autour de cette compétition. Enfin, la compétition a commencé, a lancé une première fois le 18 octobre, ensuite le 25 octobre, un peu plus tard le 9 novembre pour finalement se jouer le 28 novembre. Eh bien, le championnat d'édition 2014-2015 a véritablement commencé avec les 14 équipes de la Ligue 1 qui ont joué donc la première journée ce week-end. Les grosses équipes se sont bien signalées. La SEC s'est imposée 1-0. L'Africa Sport d'Abidjan s'est imposé également 1-0. Seul Gingwa, qui a terminé l'année dernière deuxième sur le podium, a été battu pour cette première journée. On attend l'entrée en liste du Seoué Sport de San Pedro, qui est donc le grand champion et qui va défendre son titre encore cette année. Le Seoué qui jouera contre l'équipe de l'armée, l'équipe de l'SOA, la société omnisport de l'armée. Ce sera le match en retard donc cette première journée. On attend donc l'entrée en compétition du Seoué Sport de San Pedro pour voir comment cette compétition va se dérouler. Mais enfin, les quelques détails liés aux questions financière entre les clubs de Ligue 1 et les clubs de Ligue 2, ceux de la D3 avec la Fédération ivoirienne de football ont trouvé finalement une solution. Enfin bref, la compétition a repris à la grande joie de tout le monde, même si tous les problèmes ne sont pas encore réglés. Enfin bref, tous les Ivoiriens se réjouissent de ce qu'on a recommencé à jouer au football au plan local.
Élisée Oumpatine, un mot sur le football béninois qui a traversé une période assez houleuse.
Et qui continue toujours de sombrer. Et c'est vrai que dans peu de temps, le nouveau championnat national de football de la première division va démarrer avec le match d'ouverture entre les Buffles de Parakou, l'équipe championne à titre contre Béké FC de Bébéréké, deux clubs du Nord, Béké étant champion de la Ligue 2. C'est vrai, il y a plusieurs problèmes qui font que ce championnat tarde à démarrer, puisque le championnat normalement devrait être organisé par la Ligue professionnelle de football, mais la fédération a pris les choses en main et il y a la guerre entre les deux parties. Le président de la Ligue, Valet Glelec, qui dit que lui ne peut pas accepter que la fédération organise le championnat. C'est pourquoi aujourd'hui on est en temps mort et là beaucoup de problèmes depuis 2001 où on a connu un très bon championnat professionnel et que les choses se sont mal tournées. C'est vrai, c'est la guerre entre les acteurs, ceux-là qui ne veulent plus que ces footballeurs-là puissent jouir de leurs prestations. Maintenant, aujourd'hui, on se pose la question si véritablement le championnat pourra démarrer le 27 décembre prochain, comme nous l'a dit le président de la fédération. On attend de voir.
Voilà, ici aux États-Unis, l'ancien international français Thierry Henry réfléchit à son avenir après l'élimination de son club, les Red Bulls de New York, en demi-finale de la Major League Soccer. battu à domicile 2-1 à l'aller par le New England Revolution. Le club new-yorkais est allé arracher un nul, 2-2, insuffisant pour la suite de la compétition avec l'expiration de son contrat. Thierry Henry, qui est arrivé à New York en 2010, n'a pas dit ce qu'il compte faire, mais il n'entend pas signer à nouveau avec New York. Côté basketball, Golden State a battu Détroit 104-93. Memphis a remporté sa 15e victoire, 97-85. Et les Lakers ont battu, après prolongation, Toronto 129-122. Voilà, c'est tout pour Sporama. Merci à Jules-Valentin Goué. Merci à Élisée Ongpatine, Stéphane C. Abidjan. Merci à tous nos auditeurs. Rendez-vous tous les lundis soirs à 19h, temps universel, sur VOA Afrique.